Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 29e épisode, nous parlerons de la dyslexie en compagnie de Chloé qui, depuis son plus jeune âge, souffre de ce trouble de l'apprentissage affectant sa capacité à lire mais surtout à écrire. Rares sont les professeurs qui l'ont soutenue au fil de ses études. Et nous allons justement parler de ce manque récurrent d'empathie que Chloé subira du CP jusqu'au master. Nous discuterons également des différentes méthodes qui, avec le temps, l'ont aidée à apprivoiser et même aimer sa dyslexie. À présent, Chloé voit dans ce trouble un don en lien direct avec sa créativité. Et bien sûr, nous aborderons cette nouvelle perception en détail. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 29e épisode. Très bonne écoute à tous.
Chloé, comment vas-tu?
Ça va bien.
Je suis trop contente de parler de ça. La définition que j'ai... Enfin, c'est pas tant une définition, mais comme la perception que j'ai de la dyslexie, c'est de la difficulté, déjà, à parler. Tu me corrigeras si je me trompe. Forcément, je me trompe. Mais en tout cas, je te dis ce que j'ai en tête. Comme la difficulté à parler, mais aussi à écrire et à concevoir les mots dans notre tête de façon à bien les écrire ensuite et à bien les verbaliser. Est-ce que je suis à côté de la plaque ?
À moitié.
Okay.
La dyslexie, en gros, c'est un trouble de l'apprentissage de la langue écrite. Donc la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage de la lecture, mais ça s'accompagne avec la dysorthographie, qui est un trouble de l'apprentissage de l'écriture. Après, tu sais, il y a plusieurs dys. Alors dyscalculie, c'est les maths, dyspraxie, c'est les gestes. Il y en a un aussi autour de ce que tu disais, avoir du mal à prononcer les mots. Donc en fait, il y a plusieurs 10 différents.
Et toi, c'était quoi ton 10?
Moi, mon 10, c'est d'abord c'est dyslexie, donc l'apprentissage de la lecture, puis après dysorthographie, l'apprentissage de l'orthographe, parce que c'est indissociable.
C'est lié.
C'est lié, mais d'abord on voit la dyslexie, parce que quand on est petit, on apprend d'abord à lire, puis après on apprend à écrire, donc c'est là qu'on se rend compte que les deux sont liés. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre.
Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais quand tes premières lacunes se sont manifestées?
Oui, c'est en fait, c'est au moment de l'apprentissage de la langue écrite. Donc, en général, c'est autour de la rentrée à l'école primaire. Je crois qu'on a à peu près 5 ou 6 ans. C'est là où tu commences à avoir des doutes, mais t'es pas sûr. Il faut attendre, en général, CE1, CE2, pour être sûr de pouvoir mettre un diagnostic sur la dyslexie. En tout cas, c'est ce que les orthophonistes disent. Moi, j'ai commencé à voir... En fait, c'est ma mère qui a commencé à voir. Moi, j'ai pas vu. Parce que moi, je pouvais pas m'en rendre compte que j'avais un trou. C'était impossible pour moi de m'en rendre compte, parce que moi, je pensais que j'étais normale comme tout le monde. Et c'est ma mère et mes professeurs qui ont commencé à voir. Mes professeurs trouvaient que j'étais lente, ils trouvaient que j'avais du mal à me concentrer. Ils pensaient aussi que j'étais flemmarde. C'était certainement une autre époque et la France est certainement très en retard là-dessus, mais mes profs, ils comprenaient pas, ils étaient à côté de la plaque. Ma mère, elle savait pas trop ce que c'était la dyslexie, mais elle avait quand même un petit doute. Donc c'est elle qui m'a amenée voir un orthophoniste. Et c'est l'orthophoniste qui a dit oui, en effet, vous êtes bien dyslexique. Et moi, au début, ce que je me rendais compte surtout, c'est que c'était laborieux, c'était difficile, c'était long, c'était fatigant. Je détestais faire mes devoirs, je pleurais, je sentais qu'il y avait une différence avec les autres élèves, je comprenais pas. Après, j'ai bien compris, mais au début, je sentais juste qu'il y avait une différence, mais je comprenais pas ce que c'était.
Est-ce qu'il y avait des premiers diagnostics, comme des faux diagnostics, avant d'arriver à la réponse finale qui était celle de la dyslexie?
Je dirais que c'est surtout les profs qui peuvent donner un espèce de faux diagnostic, dans le sens où les profs, s'ils savent pas reconnaître un dyslexique, ils peuvent penser que ça peut être un autre problème. Soit un retard cognitif autre, soit tu sais, ça peut être parfois un enfant qui est hyperactif et qui n'arrive pas à se concentrer. Ça peut être plein d'autres choses. Mais moi, mes profs, ils pensaient que j'étais flemmarde et que je faisais pas d'efforts. Donc, mais l'orthophoniste, il peut pas se tromper. C'est son métier, il le voit tout de suite. Et en fait, il y a un test, ça s'appelle le test de l'alouette. En gros, c'est un texte qui est reconnu par l'ordre des orthophonistes et aussi par l'éducation nationale. C'est un texte que tu fais lire aux enfants, puis tu vois sur quel mot ils butent, sur quel mot ils bloquent. Et après, il y en a un autre qui est une dictée. Et ce test-là, il y a les orthophonistes calculent le nombre de fautes, le nombre d'erreurs. Puis en fonction du nombre, ils peuvent dire si oui ou non tu es dyslexique. Puis après, il y a des niveaux de dyslexie plus ou moins intenses. Je crois que la dyslexie, ça s'apparente à au moins un retard de 18 mois par rapport à la norme en lecture.
T'étais où?
Ben moi, j'étais là-dedans. J'avais 18 mois de retard. Après, tu peux avoir plus. Je dirais que j'étais pas une dyslexique trop intense. En tout cas, au début, j'étais très dyslexique parce que je faisais à peu près 3 fautes d'orthographe par mot. C'était quasiment impossible de me comprendre. Pas à l'oral, parce que là, ça n'a rien à voir avec l'oral.
T'écrivais en phonétique.
Ouais, j'ai inventé mon propre système d'écriture. Mais par contre, après, j'ai réussi à bien compenser, parce que la dyslexie, ça se compense, ça se soigne pas. C'est considéré comme un handicap. Par exemple, un aveugle, il arrivera jamais à lire, mais il va compenser. Il aura développé son ouïe, son toucher, il aura développé plein d'autres sens, ce qui fait qu'il va très bien s'en sortir dans la société. Un dyslexique, c'est pareil. Il n'aura jamais vraiment les mêmes capacités qu'une personne normale pour lire et écrire. Cet apprentissage-là, c'est impossible pour lui. C'est comme un étranger qui ne connaît pas la langue et qui ne peut pas l'apprendre. Donc, ça se compense.
Ce qui m'interpelle dans ce que tu disais, c'est le côté des profs qui te pensaient paresseuse, qui avaient plein d'idées sur toi qui se sont avérées fausses.
Ouais.
Et ça a eu quel impact sur toi? Parce que je me dis, si encore c'était des personnes étrangères, bon, tu pouvais, tu sais, avec le temps faire la part des choses, mais là, ce sont tes profs, c'est comme une figure d'autorité, c'est des personnes qui sont censées te transmettre un savoir.
Bah oui.
Qui sont censées réarranger ton esprit pour faire en sorte que tu sois une personne érudite dans le futur. Ces personnes-là te condamnent finalement avec ces mots-là en disant que t'es paresseuse, t'es ci, t'es ça. Je réponds à la question un peu.
Je pense que tu te doutes un peu de la réponse et c'est vrai que ma mère avait gardé mes cahiers d'école, tous mes cahiers d'école, et je les ai relus justement pour mon mémoire et c'est vrai que les annotations à côté, là, les petites annotations en rouge, c'est nul, passable, ne fais aucun effort, que des adjectifs très négatifs. Et je pense que petit à petit, ça a détruit une partie de ma confiance en moi.
T'as fini par y croire.
Bah oui, franchement, maintenant j'ai pas peur d'utiliser des mots assez intenses pour parler de ça, mais les profs, ils ont vraiment vraiment fait de la merde parce que ça m'a mis dans une case, tu sais, la case du mauvais élève, du cancre. Alors qu'en fait, c'était pas du tout moi. Parce que moi, j'adorais l'école, j'adorais apprendre et j'avais soif de connaissances et je voulais faire des études. Et donc, ça m'a mis dans cette case du mauvais élève. Et après, les profs, ils continuent à me stigmatiser de prof en prof, d'année en année, d'évolution. Ça m'a suivi toute ma scolarité. C'est il n'y a que en master que, enfin, j'ai senti un autre regard sur moi. Où là, j'ai senti que la dyslexie n'était plus mal vue, c'était neutre, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'avis. C'était là, t'as réussi à être là, en fait. Maintenant que t'es ici, ça prouve bien que tu dois pas être trop bête. Donc, mais sur le moment, quand j'étais petite, ça a été vraiment une grande souffrance. C'est vraiment un sujet que j'aborde avec mon psy aujourd'hui. Ça m'a créé beaucoup de troubles, beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, beaucoup d'incompréhension. Et j'en veux beaucoup au système éducatif français et aux profs que j'ai eus. Franchement, c'est grave ce qu'ils ont fait. J'espère que ça a évolué. Il y avait une période où les profs disaient que la dyslexie n'existait pas et que c'était une excuse. Donc il fallait carrément convaincre les profs, alors que c'est l'orthophoniste qui fait un diagnostic, qui est validé par un médecin. Donc ça, c'est assez troublant aussi de se rendre compte à quel point la dyslexie est encadrée par le corps médical et pas professionnel. Et une fois que l'orthophoniste et le médecin a fait un papier, tu le donnes au prof, c'est censé être reconnu et t'as des aménagements. Mais il y a certains profs, moi je l'ai vécu, à tous mes niveaux d'études, il y en avait qui étaient cool, qui comprenaient, et il y en avait qui disaient toujours « Oui, oui, c'est ça, mais t'inquiète, la dyslexie ça n'existe pas, on va travailler, tu vas y arriver comme les autres. » Donc il y avait des profs qui ne voulaient pas admettre que j'étais dyslexique et qui ne voulaient pas me laisser bénéficier des aménagements que je devais avoir en tant que dyslexique pour avoir les mêmes chances que les autres.
Est-ce que c'est légal?
Bah non, j'avais pas trop envie d'insister, tu vois. Déjà, je me souviens qu'à chaque rentrée scolaire, je devais aller voir mes profs, tous mes profs, pour leur dire « Je suis dyslexique, voilà mon papier !» J'avais toujours honte en fait. Mais il fallait que je le fasse.
Parce que c'est ta réussite scolaire qui en dépendait.
Ouais.
Et en dehors des profs, est-ce que t'étais aussi stigmatisée par les élèves?
Non, zéro.
Donc t'étais plus acceptée par les élèves que par les profs?
Bah oui, bah d'ailleurs ça a certainement forgé une partie de ma personnalité parce que je me souviens que dans la cour de récré, j'étais hyper à l'aise. J'adorais la récréation et j'adorais être avec les autres. Et dans la classe, j'étais pas trop à ma place. Soit je me mettais au fond de la classe parce que j'avais un peu abandonné, soit je me mettais tout devant parce que t'sais, je voulais montrer ma motivation. Mais je me faisais toujours casser par les profs, les mauvaises notes. T'sais, quand tu reçois ta copie et que t'as la pire note toute la classe, c'était un enfer pour moi. Mais après, j'étais très heureuse d'aller à l'école parce que j'adorais le côté social, j'avais plein d'amis quoi. Dans la cour de récré, j'étais une autre personne que dans la classe. jusqu'au master.
Ouais.
Pour te faire un petit historique de ma scolarité si tu veux.
Je veux bien.
Ok. Donc en gros, c'est ça, on a vu que j'étais dyslexique à peu près à l'école primaire. Donc ça a été très laborieux. J'étais même dispensée de dictée parce que c'était une humiliation. Donc j'avais le droit à un tiers-temps. Donc un tiers-temps, c'est du temps supplémentaire pour les examens et pour les exercices. Ou alors, ils retirent un certain nombre d'exercices parce que, en fait, la compensation de la dyslexie, elle s'apporte par le temps et le travail. Il n'y a pas de secret. Il faut que tu travailles plus et que tu y passes plus de temps. Si tu fais ça, normalement, tu peux arriver aux mêmes chances que les autres. Donc j'avais un tiers temps pour tous mes examens et même une dispense de dictée parce que la dictée, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Donc le collège, pareil. Donc tous les deux ans, tu dois refaire un test pour prouver que tu es toujours dyslexique. Alors que tu le restes à vie, hein, mais bon. Pas grave, donc tous les deux ans. Donc j'étais suivie par une orthophoniste de l'école primaire jusqu'au collège. Toujours la même. Moi je la considère comme une sauveuse, j'ai l'impression qu'elle m'a sauvé la vie. Sans elle, j'aurais jamais réussi à faire des études. Donc déjà, elle m'a apporté des techniques, mais elle m'a aussi apporté un soutien moral. Elle m'a toujours dit, Chloé, tu n'es pas nulle, tu es différente. C'est toujours elle qui venait dire l'inverse que ce que mes profs disaient. Toujours, toujours. Rabâcher. Parce qu'en fait, si l'élève il se sent nul et découragé, ben. Il a plus envie, quoi. Il y a beaucoup de décrochages scolaires dans la dyslexie. Il y a beaucoup de dyslexiques, en fait, qui abandonnent ou qui font un peu, c'est ce qu'on appelle en France les voies de garage, parce que les grandes études, c'est pas fait pour eux. Au moment du collège, ça a été encore plus difficile. Mais je me suis accrochée. J'arrivais toujours à avoir 12 de moyenne. C'est pas ouf, mais ça passe, mais en redoublant d'efforts.
Tu fournissais des efforts qui, chez une autre personne, auraient abouti peut-être à un 16 de moyenne.
Voilà, c'est ça. Ou peut-être même à un 18. Les matières où j'étais bonne, c'était l'art plastique, la musique, la techno, les choses comme ça. La plupart des matières générales, c'était très difficile, parce que même si la dyslexie, tu penses que c'est que le français, bah en fait, c'est pas que le français. C'est aussi l'histoire, c'est aussi la géo, c'est aussi la science, même les maths, parce que tu sais, il y a des énoncés qui peuvent être très longs, les problèmes, tout ça. Donc le collège, très difficile et laborieux, mais j'étais quand même bien entourée par ma mère, mon orthophoniste, mes amis, donc j'ai passé à travers. Après le lycée, là ça a été les catastrophes. Forcément, lycée général, tu sais, le niveau il commence à augmenter. Là t'as plein de matières, puis toutes les matières sont importantes. Donc, moi, mon option que je voulais, c'était art plastique. Parce que je savais déjà depuis le début que je voulais faire des études artistiques. Moi, je me voyais bien faire les beaux-arts, un truc comme ça, et un truc comme architecte, designer d'espace ou designer d'objets. Au début, c'était ça que je voulais. Donc j'arrive au lycée, je prends l'option art plastique. J'étais quand même plus littéraire que scientifique, malgré ma dyslexie. La seconde, ça a été la catastrophe. Le niveau était trop difficile. Je me suis rétamée, peut-être 8 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc mes profs, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, Chloé, tu redoubles, ça va bien se passer. Et en fait, ça a été encore pire parce que le fait de ne plus être avec tous mes amis, on se suivait avec un groupe de copines d'enfance. Et elle m'aidait beaucoup, je pense. Elle me soutenait énormément. Et là, d'être toute seule, ça m'a mis un coup. J'étais comme dégoûtée du système scolaire. J'ai abandonné, j'ai un peu lâché tous mes efforts. Et en lâchant tous mes efforts, ça a été encore pire. Donc je vais avoir, je sais pas, 5 ou 6 de moyenne. Donc là, mes profs, ils m'ont dit, bah, Chloé, on veut plus de toi dans le cursus général. Il faut que tu partes en professionnel ou en technique. Il n'y a pas moyen que tu continues en général, tu n'y arriveras jamais. Je veux bien, mais sauf que moi, à la base, j'avais un plan. Moi, je voulais aller aux Beaux-Arts. Donc pour aller aux Beaux-Arts, il faut faire une année de mise à niveau en art appliqué. Et ça, ça se fait après un bac général. Donc j'étais un peu dans la merde, un peu dégoûtée de me sentir exclue du système. Donc avec ma mère, on a cherché un bac professionnel, mais qui restait dans l'art. Et on a trouvé le bac pro communication visuelle. Ça a été quand même difficile parce que j'ai dû quitter ma ville, j'ai dû partir dans une autre ville à 17 ans. Finalement, ça a été cool parce que ça m'a forgé quand même, ça m'a rendu plus autonome. Donc j'arrive en bac pro et là, le niveau, il régresse de fou. En fait, quand t'es en bac pro, en matière générale, tu retournes à peu près niveau collège, mais t'as toutes les matières professionnelles. Donc, moi, mes matières prof, c'était de l'art plastique, du graphisme, de l'histoire de l'art, c'est que des matières qui me plaisaient beaucoup. Donc là, la tendance s'est inversée et bah, j'ai commencé à avoir des bonnes notes et à passer de dernière de la classe à parmi les premières de la classe, quoi. Donc, c'est un peu comme si j'avais fait un détour et qu'après ce détour, moi, je voulais revenir dans la voie grandes études. Et là, ça a été vraiment difficile. Là, je me suis repris une claque parce qu'en fait, les grandes études, ils veulent pas des bacs pro. Parce qu'ils considèrent que les bacs pro, ils ont pas un assez bon niveau en général pour prétendre à faire des études. Ce qui est complètement con, mais c'est ça. Il y a eu une loi qui est passée à ce moment-là, qui était que si tu obtenais une mention bien ou très bien de ton bac pro, tu étais admis de droit dans le BTS de la spécialisation de ton bac pro. Donc il y avait un BTS à Lyon qui me plaisait beaucoup, quand même une école un peu élitiste. Et comme il y avait cette loi, moi j'ai eu mon bac avec mention bien, bah en fait ils ont été obligés de me prendre. Mais ils me voulaient pas.
Ils t'ont dit qu'ils te voulaient pas ?
Oui, ils l'ont dit. J'ai envoyé ma candidature, pas de réponse. Puis ma mère, en fait, ce qu'elle a fait, comme c'est quand même une sacrée battante, et qu'elle n'est pas du genre à laisser tomber, elle a dit, y a pas de souci Chloé, t'inquiète, c'est la loi, moi je vais aller les voir. Donc en fait, elle s'est pointée à l'école, elle a dit, voilà, ça c'est le dossier de ma fille, vous l'avez reçu, c'est la loi. Elle est admise de droit dans ce BTS, parce que c'est le BTS de sa spécialisation, Et ils m'ont pris le lendemain de la rentrée. Ça m'a dégoûtée parce qu'en fait, tout le monde, toute la classe a fait sa rentrée, comme tout le monde. Et moi, j'étais en attente. Et ils m'ont accepté le lendemain de la rentrée. Donc ça a été perturbant pour moi, un peu humiliant aussi d'arriver en mode, tu sais, la fille qui a été rajoutée. Donc bref, j'arrive le lendemain en cours. Et là, je tombe sur des profs à l'ancienne, très élitistes. Donc ils en ont rien à foutre de la dyslexie. Je sentais qu'ils avaient un a priori sur moi. Je redevenais la mauvaise élève, la cancre, celle qu'on voulait pas vraiment. Et au moment du BTS, donc là, je leur dis, bon, bah écoutez, les gars, j'ai pas eu mon tiers-temps pendant tous les deux années, mais là, pour l'examen, je le veux vraiment, parce que c'est la loi et c'est très important. Et là, pour faire appliquer ça, il faut aller voir l'infirmière du lycée. Parce que, comme c'est considéré comme un handicap, c'est pas l'affaire des profs, c'est l'affaire de l'infirmière, du personnel médical.
Elle va prendre ta température.
C'est ça. Donc ça n'a aucun sens. Mais, donc moi, je vais voir l'infirmière, et là, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle me dit, cette conne ? Mais vous savez, mademoiselle, si on n'est pas intelligente, on fait pas d'études. Ah, voilà qui aide. Voilà. Donc, tiens, je me continue à me reprendre des claques. Encore des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, qui me font chier avec ça. Donc, je pense que c'est ma mère, encore une fois, qui a intervenu et qui a envoyé des papiers. Donc, elle était pas loin d'envoyer un mot au ministre de l'Éducation, quoi. Donc, ça a fonctionné. J'ai eu mon tiers-temps. J'ai eu mon BTS. J'en suis bien sortie. Je sais plus combien j'ai eu. Je me demande si j'ai pas eu 15 à mon BTS. Et à la fin du BTS, les profs, en fait, ils donnent une appréciation sur ton bulletin. Parce que quand t'es dans le BTS, t'es quand même dans des études publiques, dans une voie publique. Donc, pour poursuivre après, pour aller en master, comme tu pars pas dans une école privée, il y a ce système-là de bulletin avec une appréciation. Et ils m'ont mis avis défavorable pour la poursuite d'études. Et ça peut vraiment t'empêcher de continuer. Donc les profs, ils m'ont mis ça, donc ça m'a vraiment fait chier. Ça a été très difficile, très douloureux, j'en ai pleuré, je me souviens. Encore une fois, tu vois, mes collègues, mes camarades de classe, ils étaient à fond avec moi. Et je me souviens, tu sais, il y a toujours un délégué de classe. Bah, le délégué, il s'était battu pour moi auprès des profs, en mode « Non, faut pas faire ça, Chloé, elle est méritante et tout, naninana. » Et ils voulaient rien savoir, ils m'ont quand même mis cette appréciation. Donc j'ai postulé, encore une fois, dans tous les masters de France pour me laisser une chance. Il y a qu'un seul master qui m'a pris et je pense que l'appréciation, ça a vraiment joué.
Ça n'avait pas de sens avec la note que tu as eue.
C'est ça. Donc en gros, en fait, mes profs, ils me disaient qu'ils ne me sentaient pas capable de rédiger un mémoire. Ils pensaient que j'avais pas, à cause de ma dyslexie, j'avais pas les capacités de réflexion, que j'étais juste capable d'exécuter. Donc finalement, j'ai été prise dans un master à Marseille, qui était un master, je pense, un peu moins élitiste que les autres. Je suis tombée sur des profs qui étaient en gros des punks du design et du graphisme et de l'art, un peu rebelles, un peu de gauche, un peu alternatif. Et je pense que eux, ils en avaient rien à foutre de la dyslexie. Au contraire, ils voyaient ça comme une force. Et c'est là que, enfin, ça a plus été stigmatisant pour moi.
Est-ce que le fait que justement tes anciens profs te disent on ne pense pas capable de faire un master et surtout de faire un mémoire, ça t'a comme donné du fuel pour justement faire ce mémoire?
Je pense que ça m'a quand même donné la niaque parce que je me suis dit je vais vous prouver que vous avez tort et j'ai réussi finalement. Après ça, j'avais qu'une envie, c'était d'aller les voir et de brandir mon mémoire et mon diplôme. Je l'ai pas fait parce que je trouvais qu'ils le méritaient pas, mais c'est vrai que
t'aurais dû.
Ouais.
Tu m'as parlé du mémoire que t'as fait autour de la dyslexie, j'ai trouvé ça absolument dingue. Genre, j'ai trouvé que c'était un magnifique doigt d'honneur. Je suis pour la vengeance intelligente, et pour moi, c'est la plus intelligente forme de vengeance que t'aurais pu choisir. Et je trouve aussi que c'est une bonne... Tu me diras si c'est comme ça que tu ressens ça, mais comme c'est une bonne façon de se réapproprier quelque chose qui t'a tiré vers le bas pendant une bonne partie de ta vie. Et c'est quelque chose qu'on a aussi instrumentalisé contre toi. C'est comme une manière de te prouver que c'est une bonne facette de toi-même. Et aussi de prouver au monde que non, vous posez un mauvais regard sur la dyslexie, en fait, c'est ça. Mais la dyslexie, c'est un sujet qui est large.
Oui.
Et étant donné que le sujet est large, t'as choisi un angle.
Bah en fait, comme j'étais quand même en études de design, l'angle, c'est un peu comment le design graphique peut venir en aide aux dyslexiques. En gros, j'ai fait le lien dans mon mémoire entre le dyslexique et le designer. Parce que comme le dyslexique, c'est quelqu'un qui pense en image, le designer graphique, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui pense en image, c'est quelqu'un qui communique avec des images et pas avec des mots. En fait, ce que je me suis dit aussi, c'est que c'était intéressant, c'est que moi, j'ai fait de l'orthophonie, donc j'ai développé ma propre méthode pour apprendre à écrire. Et cette méthode, elle passe par le dessin. Donc, quand je suis arrivée en master, et que j'en ai discuté avec mes profs, je me suis rendu compte que c'était super intéressant de faire le lien entre mon expérience personnelle, la méthode que j'avais développée d'apprentissage, qui est une méthode unique et différente, donc alternative, pour apprendre à écrire, qui pourrait se transmettre en fait, qui pourrait être développée, brevetée, je sais pas de quelle manière. Ça a été aussi un peu comme une thérapie. Comme tu disais, ça m'a permis de faire un fuck au prof et de boucler un peu la boucle. C'est-à-dire que j'ai commencé mes études en tant que dyslexique à galérer et j'ai terminé mes études en beauté en faisant un mémoire sur la dyslexie qui retournait le problème dans un autre sens. Et je me suis rendu compte que aussi que ça m'a aidé à accepter, à guérir un peu ça, à soigner ça et à le tourner en avantage.
Vu qu'on est à l'audio, je pense qu'on peut déjà... Attends, je vais prendre... Si tu me le permets, je prends ton chef-d'œuvre entre mes mains. Déjà, parlons de...
De l'objet.
De l'objet. Parce que oui, ce que je tiens entre mes mains, c'est un livre, c'est un littéral livre avec écrit...
Alterlexie. Ça n'existe pas, hein. C'est un terme que j'ai inventé. Parce que dyslexie, donc dans dyslexie, il y a 10. Donc 10, bon, ça vient du latin, je ne sais plus quoi, qui veut dire dysfonctionnement, en gros, qui a une connotation négative. Et lexie, bah, c'est le langage. Donc je me suis dit, bah, au lieu de dire que je suis dyslexique, que j'ai un problème, qu'il y a un dysfonctionnement et avoir tout un mémoire qui porte là-dessus, je me suis dit, on va l'appeler alterlexie et plus donc l'autre langage.
Donc c'est une manière de déstigmatiser en fait ce trouble.
Oui, ce trouble. Déstigmatiser, c'est ça, parce que comme c'est considéré comme un handicap, que c'est mal vu pour tout ce que je t'ai raconté avant, je me disais que c'était intéressant de le voir d'une autre manière.
Tu parlais d'avoir développé un langage.
Oui.
Quel est ce langage?
Alors, en gros, tu sais, il y a deux types de dyslexie. Et ma dyslexie à moi, c'est de ne pas réussir à mémoriser l'image des mots. En gros, quand tu apprends à lire et à écrire, tu te fais un espèce de lexique interne dans ta tête. C'est comme si dans ta tête, automatiquement, tu développes un petit carnet de mots et tu enregistres les mots. Tu les apprends. Et nous, en tant qu'adultes, on connaît je sais pas combien de mots. En tout cas, on en connaît suffisamment pour lire et écrire sans faire de faute. Moi, ce principe-là, ça fonctionne pas. Dans mon cerveau, il y a une espèce de zone qui ne s'allume pas. C'est l'aire visuelle des mots. Elle ne s'allume pas quand j'apprends à lire et à écrire. Donc, ça fait que je mémorise pas les mots. Donc, en gros, les mots, je les redécouvre à chaque fois. Comme un enfant qui, par exemple, apprend à lire pour la première fois le mot éléphant, il fait éléphant. Donc il le décompose. Mais après, quand t'es adulte, le mot, tu le vois, tu es dans son ensemble. Tu l'as vu, tu le reconnais.
Tu le découvres plus.
Donc moi, ça, je l'ai pas. Je le redécouvre à chaque fois. Donc ça fait que j'arrive pas à mémoriser l'orthographe des mots, surtout les mots invariables. Parce qu'il n'y a pas de logique dedans. Donc toutes les lettres qui se prononcent pas, tous les sons qui s'écrivent de plusieurs manières différentes, comme le son O qui s'écrit avec un O, ou alors avec AU, ou alors avec EAU, c'est un casse-tête pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis raconté des histoires sur chaque mot. Donc j'ai inventé une histoire et après je la dessinais. Donc par exemple, le mot dos, D-O-S, ben le O, il y a plusieurs manières de l'écrire, et le S, on l'entend pas. Donc ça fait deux difficultés pour moi. Donc en gros, j'ai plein de mots et plein d'options. Je pourrais l'écrire de 10 manières différentes. Donc ce que je me suis dit, c'est que le O, ben, comme c'est un rond, ça ressemble un peu à une tête de personnage. Donc le O, c'est un personnage. Puis le S, ça ressemble un peu à un dossier de siège. Genre, ça pourrait ressembler à un fauteuil, à un siège. Donc le O, le personnage, est accoudé, adossé sur son siège. Donc j'ai dessiné une petite tête dans le O et un petit siège avec la courbure du S. Et toute cette histoire-là que je te raconte, je l'ai inventée, je l'ai dessinée et je faisais des petites cartes. Chaque petite carte, il y avait un mot. Puis après, j'avais une pile de petites cartes. Mais la petite carte, à partir du moment où je l'ai fait une fois, normalement, je l'ai mémorisée. Donc c'est comme ça que j'ai appris à écrire.
Je trouve ça fascinant parce que à chaque fois que t'écris, tu dois réactiver des histoires.
C'est pour ça que j'ai besoin de plus de temps, tout simplement. La méthode alternative que j'ai trouvée, c'est un peu comme si j'avais déjoué le système. Elle me prend plus de temps, mais je l'ai automatisée. Et dans mes mémoires là, que j'ai écrit, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, des bouquins super compliqués, de sciences cognitives, de pédagogie et tout. Ils expliquent qu'en gros, le cerveau d'un dyslexique va plus vite qu'un film. Tu sais, un film, c'est 24 images par seconde. Ben, le cerveau d'un dyslexique, il fonctionne à peu près à 36 images par seconde. Donc en gros, c'est un cerveau qui a des facilités à concevoir des images, des films, des scénarios très très vite pour après bah, s'en servir pour écrire en fait. Et quand je lis, c'est pareil. Dans ma tête, je lis éléphant, mais toi, je te dis éléphant. C'est pour ça que ça me fatigue aussi de lire et d'écrire plus que la norme.
Ça me fait penser à la manière dont je mémorise ma droite et ma gauche. Comme ça, je ne saurais pas te le dire, mais je suis obligée d'écrire mon prénom. Et je saurais que, ok, si j'arrive à l'écrire, c'est que c'est ma droite. Et si j'arrive pas à l'écrire, c'est que c'est ma gauche.
Ok.
La manière aussi dont je mémorise les... Parce que j'ai du mal avec les chiffres, pour le coup.
Peut-être de la dyscalculie. Il y a plein d'adultes, en fait, qui ont des 10, mais qui n'ont jamais été diagnostiqués.
Ça ne me surprendrait pas parce que tous mes codes, par exemple mes codes de carte bleue, je suis obligée de... En fait, les personnaliser, pas forcément de faire une histoire. Donc, par exemple, le code de ma toute première carte bleue que maintenant j'utilise pour comme plusieurs choses parce que je me dis je l'ai mémorisé et je ne change plus. La phrase mnémotechnique que je me dis c'est le plus petit mange le plus grand.
Ok.
Dans ma tête ça va être évident et ça va faire de sens à personne sauf à mon cerveau.
C'est exactement ça. C'est un moyen mnémotechnique en fait.
J'ai fait un épisode sur le burn-out où j'expliquais que j'ai eu des problèmes de santé qui, une fois que je les ai découverts, ont fait sens en fait par rapport à ce que je vivais depuis plusieurs années. Un des symptômes que je vivais depuis plusieurs années, c'était ma mémoire qui était... En fait, je faisais juste plus confiance à ma mémoire. Mais je faisais confiance à ma créativité, ce qui est comme un peu étrange, mais qui fait sens aussi. Si je faisais ces petites combines, genre par exemple, le plus petit mange le plus grand, c'est parce que je me disais, je vais jamais m'en rappeler si je me dis, ok, c'est 1, 2, 3, 4. Mais si je me fais une petite histoire, un petit slogan, et que je le mets sur ces chiffres-là, direct là, je vais m'en rappeler. Est-ce que tu fais confiance en tes capacités ?
Avant, je pense que j'avais pas confiance en mes capacités. J'avais tendance beaucoup à me dévaloriser et tu sais, quand t'as pas confiance, t'es sûr que tu vas pas y arriver, t'y arrives pas. Mais là, maintenant, je dirais que les choses sont différentes. Par contre, si tu me demandes d'aller, mettons, devant un tableau, même au travail par exemple, et d'écrire devant tout le monde, ça risque d'être un exercice très compliqué pour moi et je risque de perdre confiance en moi. Et là, la dyslexie, elle est accentuée. Je sais qu'il y a tout le monde qui me regarde, il va falloir que j'aille vite. Ça fait énormément ressortir la dyslexie parce que j'arrive pas à mettre en place mes mécanismes en fait par le stress. Et là, en général, je me fais pas confiance et du coup, je fais quand même beaucoup de... j'arrive plus à écrire. Je sais plus. Même les mots que j'ai appris, je m'en souviens plus. Et ce qui est fou, c'est que, mettons, le matin, je savais l'écrire parce que j'étais bien, je l'ai écrit. Et l'après-midi, tu me demandes de le réécrire et je sais plus. C'est là que ça prouve que la dyslexie, en fait, elle part jamais. C'est pas acquis, en fait. C'est pas ancré. C'est toujours comme ça. C'est toujours un exercice. C'est pour ça aussi que je suis devenue graphiste. C'est parce que j'ai pas besoin d'écrire beaucoup, tu vois, et que je peux communiquer avec les images.
Je me suis posé cette question quand tu m'as justement dit que t'as écrit un mémoire sur ta dyslexie. Vu que tu me parles justement de tout l'exercice que c'est de concevoir les mots dans ta tête, ensuite les mettre les uns à côté des autres et comme faire des phrases cohérentes, est-ce que t'as eu peur de ton propre projet ?
Bah oui, il y a un moment je pensais que je serais pas capable de le faire, mais j'étais tellement animée par cette envie. Tu sais, c'était un projet qui était viscéral. Je voyais que j'avais certains camarades de classe qui avaient des projets qu'ils avaient choisis un peu en mode bof. Je choisis ça, je sais pas trop pourquoi, mais ils avaient moins la niaque que moi. Et moi, ça m'a porté au-delà des difficultés. Ça m'a emmené beaucoup plus loin. Et aussi, je me suis bien entourée. C'est ça aussi. Le dyslexique, c'est quelqu'un qui trouve des astuces. Donc moi, une de mes astuces, c'est de m'entourer de gens qui savent très bien écrire et qui peuvent me relire et qui ont le temps et l'envie de le faire. Donc let's go, j'y vais, j'écris, même si c'est maladroit, même s'il y a des fautes. Même si c'est mal rédigé, c'est pas grave, je le fais et je le fais relire. Et j'ai passé des heures et des heures. Franchement, c'est énormément de travail. C'est comme si j'avais fait un an de thérapie, pas sur la dyslexie en fait, un an de thérapie sur
ta dyslexie.
Ma dyslexie et ma scolarité. Comment j'ai vécu, parce que c'est long quand même une scolarité. Comme j'ai redoublé, comme je suis passée en bac pro, tout ça, bref, ça fait quasiment 25 ans que t'es dans les études, que tu galères, t'es hors du système et que tu te bats pour rester dedans alors qu'on veut que tu sortes. Donc ça, ça a vraiment été comme une thérapie. Je me suis sentie extrêmement fière, extrêmement bien, extrêmement soulagée parce que j'ai souffert, j'ai pleuré. Je me souviens, je me suis pris la tête avec des gens qui voulaient absolument me voir, qui m'en voulaient parce que je venais plus, je sortais plus. Mais ça m'a pris tellement de temps pour rédiger ce mémoire-là que ça a été beaucoup de sacrifices. Et là, le fait de faire ce podcast-là avec toi, je me suis replongée dedans. Ça fait à peu près 5 ans que j'ai terminé. Et je me sens encore différente. Je me sens comme si j'avais encore processé là-dessus, que j'avais encore évolué. Et ça me fait du bien de le relire, de me remettre dedans, d'en parler avec toi. C'est comme si j'avais évolué, qu'une page s'était tournée, mais qu'une autre s'était ouverte. Tu sais, ça me donne envie aussi d'aider des enfants dyslexiques.
Thank you.
s'appelle Matsumoto, je crois. C'est pas vraiment un artiste, c'est un gars qui est autiste, analphabète, mais qui écrit. C'est son truc, c'est son art à lui. Il est malade d'écriture. Il écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est maladif, en fait. Et c'est ce qu'on pourrait classer comme de l'art brut.
Qu'est-ce qu'il écrit ? Est-ce qu'il y a un genre particulier ?
Bah, en fait, il écrit n'importe quoi parce qu'il est analphabète. Il sait pas ce qu'il écrit. Il voit les lettres comme des dessins, comme des signes, et il les met les uns à la suite des autres, puis il les mélange. Et c'est ça qui est assez fou avec ce gars-là, c'est qu'en fait, c'est un passionné de l'écriture qui ne sait pas écrire. Le parallèle que je vois là-dedans, c'est le dyslexique. C'est pas forcément quelqu'un qui aime pas l'écriture et qui aime pas le langage écrit, mais c'est quelqu'un qui arrive pas, qui ne le maîtrise pas. Et l'art brut, c'est pas quelqu'un qui aime pas l'art, mais c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'art. L'art brut, souvent, c'est, on appelle ça l'art des amateurs, des non-initiés. C'est quelqu'un qui a pas fait d'études en art, mais qui a besoin de le faire parce que ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien et il aime ça. En fait, l'amateur, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et le dyslexique, finalement, ça peut être un peu pareil. Quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre les règles abstraites de l'écriture, parce que l'écriture, c'est des signes abstraits et des règles abstraites qui ont été écrits, inventés par des gens, mais qui n'ont pas vraiment de sens. Alors qu'il y a d'autres systèmes d'écriture, comme les systèmes d'écriture pictographique ou idéographique, où on peut trouver un sens, parce que c'est des petits symboles, des petits pictogrammes qui essayent de représenter la réalité. Par exemple, peut-être que si la langue que j'avais dû apprendre, c'était le chinois, c'est même pas peut-être, c'est sûr, j'aurais pas été dyslexique. Parce que c'est pas le même système d'écriture, c'est pas la même manière de penser, de concevoir, comme je t'ai dit, c'est pas abstrait, mais ça tend à ressembler à la réalité, même si ça a été simplifié. Mais derrière chaque signe, tu peux raconter une histoire. Je sais pas, peut-être soleil levant, ben en fait, c'est un petit rond, un arc de cercle, qui est au-dessus d'une forme triangulaire comme un petit toit. Bon ben voilà, il y a une histoire qui est racontée, et pour moi, il n'y a pas de problème en fait. Et peut-être même que j'aurais été meilleure, peut-être même que j'aurais été super bonne pour apprendre à lire et à écrire si j'avais été chinoise. Ou les systèmes comme les hiéroglyphes ou l'écriture maya, toutes ces écritures-là, c'est des systèmes d'écriture dans lesquels j'aurais pu être pas dyslexique en fait, juste bonne, douée, et même peut-être meilleure que les autres.
T'es pas née à la bonne époque.
Non.
À chaque fois, je bug, genre j'ai envie de dire trouble, mais c'est comme si...
Tu peux le dire, mais...
Ouais.
C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un terme qui est négatif, et finalement, on pourrait dire don, si on veut le voir d'une autre manière.
Est-ce que c'est un don pour toi?
Alors, au début, je pensais que ça l'était pas. Ça m'a pris du temps avant de le voir de cet angle-là. En vrai, je l'ai toujours vu comme un obstacle, et comme un boulet que je me traîne au pied. Comme un truc qui me freine, qui m'empêche d'apprendre, qui m'empêche de communiquer, qui m'empêche de... Je pensais que ça allait m'empêcher d'avoir un bon travail. Je pensais que ça allait me bloquer, que ça allait me tirer vers le bas et finalement, j'ai changé d'avis. Bon, déjà, le mémoire, ça m'a aidé. Mais je te dirais qu'il y a un truc qui s'est passé dans la dernière année, là, à peu près. J'ai réalisé qu'en fait, ma dyslexie, elle est liée à ma créativité. Et que peut-être même que c'est grâce à ma dyslexie que je suis créative.
Est-ce que c'est lié à ta perception du monde, à la manière dont...
Ouais, d'une certaine manière.
Genre là, je vois la gourde sur la table, je vois le mot gourde dans ma tête, toi tu vas voir quelque chose d'autre.
C'est un peu comme, il y a un gars, je sais plus comment il s'appelle, pour compter, au lieu de compter sur un papier ou dans sa tête, il voit des formes de couleurs qui se mélangent. Les chiffres, il pense que c'est des couleurs, et le gars, il est capable de compter, d'additionner, de multiplier, de faire des trucs de fou en fait, et de compter des chiffres énormes ensemble, instinctivement, parce que les chiffres, il les voit comme des formes de couleurs. Bah, je pense que c'est un peu cette idée-là. Dans un des livres que j'ai étudié pour mon mémoire, qui s'appelle Le don de dyslexie, l'auteur explique que le dyslexique, il voit les choses en 3D. C'est pour ça qu'un dyslexique souvent confond les lettres. Parce que les lettres qui se ressemblent, comme le B et le D, c'est la même lettre, mais inversée. Et le dyslexique a tendance à voir les formes, les objets, en 3 dimensions bouger. Donc il a comme une conceptualisation des choses en 3D. C'est pour ça que souvent on dit certains artistes sont dyslexiques. Léonard de Vinci était dyslexique, Albert Einstein était dyslexique, parce qu'en fait c'est des gens qui ont une manière de penser qui est différente, qui peut être un obstacle dans certains apprentissages, mais qui peut être un sacré avantage dans d'autres compétences ou d'autres apprentissages. Par exemple, il y en a qui disent qu'à la NASA, ils essayent de recruter des dyslexiques parce que comme ils pensent en 3D, ils arrivent à concevoir les choses dans l'espace, genre ils arrivent à imaginer comment ça serait si on serait là et qu'on tournerait. Dans certaines écoles d'art, grandes écoles d'art aussi, c'est pas mal vu d'être dyslexique, au contraire c'est bien vu. Il y a un truc à creuser là-dessus, mais c'est pas trop développé. Je l'ai trouvé dans un seul bouquin écrit par un Américain. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres textes là-dessus. Et je pense que moi, je l'ai un petit peu ça. J'ai encore un peu du mal à le conscientiser parce que j'ai tellement toute ma vie essayé de lutter contre la dyslexie que je pense que je l'ai un peu étouffé. C'est comme si c'était un don que j'avais en moi que j'ai pas trop développé. Et tu vois, je m'en rends compte parce que quand je suis dans un processus créatif au travail, je me plonge là-dedans. Je travaille, je crée. Et après, il faut que j'écrive un truc, un petit message sur Slack, n'importe quoi. Et ben là, je sais plus écrire. Je bute sur chaque mot, je suis là, comment on écrit ça? Comment on écrit des mots tout con? Presque je sais plus écrire bonjour, quoi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me sens comme dans un mood un peu de désorientation, comme si je planais un peu, j'étais dans un autre monde. Tu sais, comme si j'étais ultra focus sur la créativité et que du coup, tous ces mécanismes de compensation que j'ai développés pour bien écrire, ils sont partis. Et je me demande si c'est pas lié. Quand je lutte contre ma dyslexie pour bien écrire, c'est comme si j'éteignais un peu mon don de créativité. Quand je laisse ma créativité vivre, bah la dyslexie revient. Donc en fait, les deux sont liés. Mais je sais pas encore quoi faire de ça. Peut-être que ce qui serait intéressant, ça serait de m'entraîner à être capable de faire on-off.
Tout à l'heure, tu parlais de... je sais pas si c'était un artiste, mais en tout cas, une personne qui voyait les mots en couleur. Bah, je pense que plusieurs personnes ont ça, mais les chiffres, je les vois en couleur. Le 6, il est vert. Le 1, il est noir. Le 8, il est violet. Le 9, il est bleu. Le 10, il est blanc. Bref,
c'est fou.
Et les jours de la semaine aussi, je les vois en couleur.
Ah ouais,
le jeudi, il est vert. Mardi, il est rouge. Le lundi, il est noir.
Est-ce que tu vois les lettres en couleur aussi?
Les lettres... Attends, est-ce que je les vois dans ma tête là? Non, je ne les vois pas en couleur.
Parce que moi, je vois les lettres en couleur et les sons. J'ai l'impression qu'ils ont des genres.
Est-ce que tu donnes aux mots des personnalités?
Un peu, ouais.
Parce que j'ai ça. Mais après, j'écris beaucoup. Et plus t'écris en général, plus tu développes une sorte d'intimité avec les mots. Limite, c'est tes animaux de compagnie, t'es là genre...
Alors ça, c'est Hector, il est un peu grognon le matin.
C'est un peu con à dire comme ça, mais parce que tu leur as donné des personnalités, parce que tu les personnifies presque, tu vas savoir comment utiliser tel mot dans telle phrase. Et tu vas savoir que, ok, ce mot-là, c'est peut-être un synonyme qu'il faut. Parce que celui-ci, il donne une couleur à la phrase qui...
Je vois exactement ce que tu veux dire et je trouve ça magnifique. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas développé à cause de ma dyslexie. Je pourrais peut-être, si je travaillais beaucoup là-dessus. Bah ça, après, c'est un exercice, ça se travaille. Toi, t'écris beaucoup, donc tu développes cette compétence et ce lien, cette relation intime avec les mots. Moi, je m'arrange pour écrire le moins possible. Par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant, je lis plus. Je me suis débrouillée pour quasiment jamais lire. Je trouvais des astuces comme écouter des livres audio. Mais là, ça y est, je m'y suis mise à la lecture et c'est cool.
Ça te fatigue plus?
Ça me fatigue moins. Avant, ça me fatiguait tellement que, tu sais, quand tu relis 10 fois la même ligne, mais c'était ça tout le temps. J'étais tellement fatiguée que j'avais déjà oublié ce que j'avais lu au début.
Et qu'est-ce qui a changé?
Je sais pas. Il s'est passé un truc depuis cette année. Hein. Peut-être le fait justement d'accepter, de me rendre compte que c'est peut-être un don et pas un handicap. C'est un truc qui s'est débloqué et j'ai découvert le plaisir de la lecture.
Extrêmement bien. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappée dès les premières fois où je t'ai parlé. T'as une façon détaillée de parler des choses. C'est-à-dire que moi, je veux juste dire, il y a un verre sur la table. Là, tu vas me décrire le verre et tu vas me dire ce qu'il y a dans le verre. Et tu vas aussi me dire, mais regarde, avec la menthe et avec le citron, ça va te faire tel goût. Est-ce que ça te va? Moi, je ne vais pas m'embarrasser ça. Je vais te dire, il y a un verre, il y a de l'eau. T'as soif? Bois. En fait, t'as une façon très attentive et presque attentionnée, je trouve, de considérer les choses qui sont autour de toi, considérer aussi les personnes qui sont autour de toi, quelque chose de très, ironiquement, de très professeur, tu vois. Tu expliques, tu vulgarises. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit que t'étais dyslexique, j'étais là genre « wow ». C'était même pas un « wow » de
« ew, oh, elle est dyslexique ».
J'étais impressionnée parce que je me suis dit, mais en dépit de ce que j'imagine être un handicap, tu sais pas, elle s'exprime de façon extrêmement belle en fait. Je mets toujours un point d'honneur à remarquer la manière dont les gens s'expriment parce que je sais que moi, j'ai eu du mal à faire des phrases et à m'exprimer. J'ai une période de ma vie où je ne parlais plus.
Ah ouais?
Ouais, je parlais presque plus. Ensuite, je suis passée par une phase où je commençais des phrases.
Tu les finissais pas?
Je les finissais pas. J'arrêtais en pleine phrase en me disant « ça vaut pas le coup, ta chance ». Bon, je suis passée par plusieurs phases et puis ensuite, j'ai eu des phases où quand je suis avec mes amis, je parle, je suis bien, il n'y a pas de souci. Mais comme quand je suis dans des contextes où on me dit « ok, exprime-toi ». Je vais parler tout bas, je vais bugger sur mes mots, je vais pas savoir quoi dire alors que une fois que ce moment est passé, tout va me revenir. Et ça va me frustre. Je sais pas, je pourrais même pas dire combien de fois ça m'a frustrée de me dire, mais purée, j'aurais pu dire ça, 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 ça. Et donc, du coup, j'ai toujours une fascination pour les gens qui arrivent à avoir les mots dans leur tête et à les prononcer comme les mots leur viennent et pas avoir à repenser, si je mets ce mot-là, en fait, ça va faire ci, ça va faire ça. Parce que c'est ce que je fais en ce moment. Parce que je parlais de phase. Là, je suis dans la phase où je parle et je m'écoute aussi parler. Il y a comme une sorte de mini-juge dans ma tête. Quelquefois, je vais commencer une phrase, ça va être très fluide, tu vois. Et je vais m'arrêter.
Ok.
Et je vais m'arrêter parce que, genre, dans ma tête, j'aurai la suite, mais j'aurai aussi le juge dans ma tête qui va être là, genre, est-ce que tu veux vraiment dire cette phrase ?
Ah ouais, mais...
Ouais. Tu te censures. Je me censure, mais j'ai comme différentes avenues et aussi différents sens à ces avenues. Tout se passe en une seconde. Dans mon esprit, je me dis, ok, mais si tu dis ça, ça va faire ça. Si tu dis ça, ça va faire tel sens. Tu vois, ça me bloque. Et ça me frustre aussi parce que je me dis, mais juste parle, c'est pas grave, parle. Mais enfin, tout ça pour dire que j'accorde toujours une grande importance à la manière dont les gens parlent et pas pour les juger ou quoi que ce soit. Je trouve toujours ça très fascinant en fait. Je trouve que ça décrit un peu comment ils sont, ça décrit comment ils voient le monde, ça décrit plein de choses, vraiment. Ça décrit leur personnalité, ça décrit beaucoup de choses. Et donc, moi, c'est vraiment l'une des premières opinions que j'avais de toi. C'est vraiment, j'étais admirative de la façon dont tu décrivais ton univers autour de toi. Voilà. Il n'y avait pas de questions.
Mais non, mais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, honnêtement, je pense que t'es la première à me le dire comme ça. Il y avait déjà des gens qui m'en avaient parlé un petit peu, mais toi, tu me le fais réaliser vraiment. Je me dis peut-être que c'est justement, tu sais, une compensation de la dyslexie. Je me suis dit, bon, bah, comme je m'exprime pas très bien à l'écrit, on va mettre le paquet à l'oral. Ou alors, je sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les détails. Je pense qu'il y a ça. Et il y a le fait aussi que, comme quand j'étais petite, j'avais du mal à comprendre les choses. En fait, je me mets à la place de l'autre et je me dis, il faut que l'autre y comprenne très très bien ce que je vais dire, je le prends pas pour un débile. Mais comme si je voulais bien faire, l'aider, donc j'explique toujours du mieux que je peux pour que la personne soit bien en compréhension, parce que moi quand j'étais petite, parfois je comprenais rien.
Je pense que c'est ça, je pense que quand on a souvent été mal compris, t'as comme une conscience beaucoup plus aiguë que les autres de l'autre personne et de la perception de l'autre personne. Comme tu vois déjà en avance le scénario.
Comme de l'empathie.
Ouais, c'est presque de l'empathie en vrai. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais voulu être dyslexique ?
Je pense que tu m'aurais posé la question il y a 10 ans. Je t'aurais dit non, parce que pour moi, c'était mon gros point faible. Et franchement, il y a 10 ans, j'aurais tout donné pour être quelqu'un d'autre, mais plus aujourd'hui. Si c'était à refaire, je prendrais tout pareil. Mais c'est parce que là, maintenant, j'ai le recul nécessaire. Mais quand j'étais petite, j'en souffrais tellement que je pouvais que espérer être différente. Là, maintenant, j'ai su en tirer le plus important. Je pense que si les choses avaient été différentes, si mes profs avaient été plus bienveillants, que tout de suite, ils m'avaient dit « Ok, Chloé, était dyslexique, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, on va t'accompagner, tu vas y arriver. » Peut-être que, étant petite, je t'aurais dit « Vas-y, on change rien. »
Fait que fuck them, en fait.
Ouais.
Merci beaucoup Chloé pour cette belle discussion autour de la dyslexie.
Ça m'a fait très très plaisir de discuter de ça avec toi et ça m'a relancé dans le sujet un peu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé avec quelqu'un et c'est toujours agréable.
Je vais te laisser avoir le mot de la fin.
Et par mot de la fin, j'entends un seul mot qui peut ou non avoir un lien avec ce dont on vient de se parler.
Acceptation.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce 29e épisode d'Univers Alternatif sur la dyslexie. Univers Alternatif est un podcast que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Pink et Wildcapster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcasts. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 2 semaines avec un épisode sur la saga Twilight.